dictionnaire amoureux du catholicisme de Denis Tillinac aux éditions Plomb.
Le grand témoin, Louis Dauphren.
Bonjour et bon réveil. Notre grand témoin ce matin s'appelle Charles-Xavier Durand. Charles-Xavier Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, sociologue des langues, vous avez une formation d'ingénieur chimiste, vous avez enseigné en France et aux États-Unis. Alors je vous situe également pour vos ouvrages, dont la plupart ont trait à la manipulation des esprits, à la guerre contre l'intelligence et, dernière en date, à la colonisation culturelle par le cheval de Troie linguistique représenté par notre meilleur ennemi depuis la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire l'anglois, l'anglais ou plutôt l'anglo-saxon. Vous publiez donc un ouvrage intitulé « Une colonie ordinaire du XXIe siècle », c'est aux éditions EME. Alors Charles-Xavier Durand, de qui sommes-nous les vassaux aujourd'hui et qu'entendez-vous par « colonisation des esprits » ?
Alors peut-être je dois revenir sur le terme « colonisation ». En fait, étymologiquement parlant, la colonisation, c'est l'occupation d'un territoire. Et dans le cas qui nous intéresse, il s'agit d'une occupation des esprits qui a été parfaitement décrite pour la première fois en 1982 par le journaliste Yves Hudd dans son livre « La conquête des esprits ». Malheureusement, cet ouvrage capital a été très peu médiatisé à l'époque, mais je pense qu'il fixe les bases sur lesquelles on doit se mettre pour comprendre le phénomène qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir l'invasion de l'anglo-américain dans notre langue et l'occupation des esprits du fait de la de l'impérialisme culturel et linguistique anglo-saxon.
N'est-ce pas déjà une prise de position que de parler d'impérialisme, que de parler de colonisation?
Effectivement, c'est ce qu'on peut penser, mais il suffit de s'abreuver, le terme impérialisme linguistique, le terme d'empire américain n'est pas utilisé ici en Europe, et pourtant c'est quelque chose de très commun, qui est cité constamment dans la littérature américaine, les intellectuels d'outre-Atlantique, les hommes politiques qui ont une certaine importance, en parlent, ne l'écrivent pas, mais en parlent constamment. Des gens comme Zbigniew Brzezinski, parlent d'Europe transformée en protectorat américain. Et de nombreux auteurs tels que Engdahl, tels que Tarplay, tels que Petras, parlent couramment d'empire américain ou d'empire anglo-américain. Ici, évidemment, ce terme n'est pas repris par les journalistes, n'est pas
Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sympathie pour l'Amérique, particulièrement dans les médias français.
Je crois que les médias français, il n'y a pas de sympathie, mais je ne suis pas sûr de ça, parce que dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont essayé de noyauter par divers moyens une grande partie des médias français et européens pour présenter des vues qui leur étaient favorables.
Vous avez des preuves de ce que vous avancez ?
Ils ont, les preuves sont décrites en détail dans un ouvrage tel que « Comment l'Ouest fut conquis ». Ça a été écrit par une Anglaise du nom de Frances Stoner Saunders, qui a publié son ouvrage il y a quelques années. C'est une personne qui a consulté les archives qui ont été mises dans le domaine public. Ce livre a été traduit en français dans plusieurs langues. Il suffit en fait de lire, de s'informer et surtout de s'abreuver aux sources d'informations anglo-saxonnes pour savoir exactement ce qui se passe.
Mais elle cite des noms,
Elle cite des noms, exactement, c'est tout à fait détaillé dans son livre. Maintenant, sur le plan politique, vous avez une personne comme François Asselineau qui décrit très bien comment, par exemple, la Commission européenne a été investie par des gens inféodés aux intérêts anglo-saxons et américains plus précisément. Lui se base effectivement également sur le contenu d'archives qui ont été rendues publiques. Dans ses conférences, il explique ça, donc en détail, il cite ses références précisément. Ça n'est pas un secret, c'est dans le domaine public pour quiconque veut véritablement s'informer et fait une petite recherche là-dessus. Je voudrais faire un point ici concernant l'importance de la conquête culturelle et linguistique. Parce que quand on parle d'un pays comme les États-Unis, on pense à l'économie, on pense à leur puissance militaire, etc. Alors que ces facteurs-là sont relativement secondaires. Je voudrais vous faire une citation ici du livre d'Yves Hudd qui me semble très importante. Yves Hudd, La conquête des esprits, publié en 1982. Les États-Unis savent pertinemment que toute conquête durable suppose à terme l'obtention de l'allégeance spontanée des populations ciblées ou du moins de ses élites locales. Le meilleur moyen d'y parvenir a toujours été l'intégration, l'assimilation, c'est-à-dire le transfert des valeurs, des principes, des modes de vie et des formes d'expression des nouveaux maîtres vers les nouveaux sujets. Même si elle n'est pas acquise dès la naissance, l'appartement au groupe, fondé sur la pratique d'une culture et d'une langue commune, fait naître des liens intimes, irrationnels, intériorisés et infiniment plus fiables à long terme que la coopération fondée sur les seuls intérêts économiques ou sur l'acceptation rationnelle de principes explicites de fonctionnement.
On ne peut pas coloniser sans le consentement.
Absolument. On ne va pas parler, bien entendu, de colonisation, on ne va pas parler du mot empire, ça c'est tabou dans les pays qui sont l'objet de la conquête des esprits, on ne va bien entendu pas en parler. Donc ça nécessite la mise en place de tout un mécanisme. Bon, c'est assez compliqué.
La France est en première ligne dans les pays
La
visés.
France est en première ligne, tout simplement parce que c'est un pays dont l'autorité morale et intellectuelle, un des rares pays, je pense, qui peut remettre en question le projet d'hégémonie américaine. C'est un pays qui a produit énormément sur le plan intellectuel. Le premier pays qui est en Europe à effectuer son unité politique. C'est un pays qui s'est affiché toujours dans l'histoire comme étant contre les empires. Et effectivement, pendant très longtemps, la France a été un obstacle non négligeable dans la réalisation de l'empire américain. Vous avez toujours des délégués français dans les grandes organisations internationales qui trouvent des objections à la politique américaine. Bien. Alors, ces objections, cette dissidence est en passe d'être vaincue, d'être éliminé.
Jacques-Xavier Durand, on voit bien qu'il y a un rapport de force qui est naturel sur les strates que représente le monde. Après tout, c'est de bonne guerre que chacun soit le plus influent possible. On imagine bien que c'est une logique de puissance géopolitique claire. Pour gagner, il faut simplement être attrayant. Les États-Unis font rêver aujourd'hui, et ils attirent beaucoup d'étudiants du monde entier. La France attire peu.
En 2003, comme vous le savez, il y a eu le discours de Villepin aux Nations Unies, au Conseil de sécurité. La France n'a pas suivi les États-Unis pour la guerre d'Irak. Et dans les jours qui ont suivi, vous avez eu des tas de jeunes qui se sont inscrits dans les alliances françaises de par le monde. Les gens étaient intéressés à découvrir la France, à apprendre le français, etc. Si vous revenez à la période de De Gaulle, dans les années 60, De Gaulle qui avait affiché une politique qui se démarquait très nettement des États-Unis, été ovationné de par le monde, en Amérique latine, en Asie, partout. Il avait un prestige fantastique parce que la France se démarquait à l'époque, notamment, d'une politique américaine qui était loin de faire le consensus sur la planète.
Mais est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'être indépendant? On a le parapluie américain, on est protégé. Pendant la guerre froide, ce sont les Américains qui nous ont protégés contre le communisme. À deux reprises, ils nous ont sauvés en 17 et en 44. C'est la moindre des choses aujourd'hui qu'ils dominent.
Alors attention, là je pense que vous faites quelques erreurs historiques. Je vous explique pourquoi. En ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, l'Europe a été libérée essentiellement du fait de rouleaux compresseurs soviétiques à l'Est. Les troupes américaines ne sont rentrées en guerre qu'en 1944, alors qu'ils avaient promis aux Russes d'intervenir dès 1942. Ça ne s'est pas fait. Ce n'est que quand l'issue de la guerre a été à peu près scellée, que les Américains sont intervenus. Et ça, d'où je tiens cette information? Eh bien, je la tiens du petit-fils de Eisenhower, David Eisenhower, qui est venu à l'université où je travaillais aux États-Unis faire une présentation sur la Seconde Guerre mondiale. C'était en 94 pour le 50e anniversaire du débarquement. Donc là, évidemment, toute mon enfance, j'ai entendu dire que...
Donc c'est de l'intox.
C'est de l'intox. C'est tout simplement de l'intox.
Welcome to our liberators, qu'on a vu en Normandie. Oui, c'est de l'intox.
Oui, oui. Ben, c'est-à-dire, ils sont venus, effectivement, mais si vous prenez en compte le nombre de morts, tous fronts confondus, les États-Unis ont eu 300 000 morts. Les Russes en ont eu plus de 20 millions. Je veux dire, c'est eux qui ont pris de plein fouet la machine de guerre allemande.
On ne peut pas nier, Charles-Xavier Durand, que pendant la guerre froide, après, qui va suivre...
Mais là, il y avait des conflits d'intérêts. Pourquoi il y a eu guerre froide? Il y a eu des conflits d'intérêts. Je veux dire, les puissances occidentales ont toujours essayé de pénétrer la Russie pour exploiter les fantastiques richesses naturelles qui s'y trouvaient. Les purges staliniennes, ben là, il y a encore... là aussi, il faut lire là-dessus. Je veux dire, il y avait une cinquième colonne en Russie que Staline a éliminé. Il a taillé dans le vif, effectivement, ça a fait des dégâts. Je veux dire, mais tout ce qui était annoncé...
Vous semblez soutenir Staline,
sur l'Union... Hein. Je ne soutiens pas du tout, je ne suis pas un ami particulier de Staline, mais tout ce qui nous a été annoncé durant la guerre froide à propos de la Russie n'est essentiellement que propagande.
Il y avait pourtant un projet, on le sait, bon, on dérive un petit peu de notre sujet linguistique, mais il y avait un projet quand même expansionniste soviétique.
Tout à fait. Alors ça, c'est intéressant du point de vue langue, parce que effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui avec l'anglais en Europe de l'Ouest est équivalent à ce qui se passait effectivement en Union soviétique dans les républiques non russophones.
Charles-Xavier Durand, est-ce que c'est votre expérience de l'international, du Japon en particulier, des pays asiatiques, qui vous a donné cette envie d'écrire cet ouvrage sur la colonisation des esprits?
Eh bien, je vais vous expliquer un petit peu donc ce cheminement. Comme vous le savez, d'après ma biographie, j'ai vécu en Amérique du Nord pendant très longtemps et je venais en France une fois par an. Et alors, donc, d'une année sur l'autre, j'ai pu m'apercevoir de quelques changements vraiment significatifs. À partir des années 90, j'ai vraiment ce changement était très clair. On voyait, par exemple, quand je passais à Paris, des affiches en anglais à l'entrée des grands cinémas parisiens, une profusion d'anglicismes et de mots anglais non traduits à la télévision, au cinéma, dans la presse écrite.
En dépit de la loi Toubon de 1994.
Tout à fait.
Parce qu'elle ne concerne pas la publicité.
Justement, c'était avant 1994, ouais. Ça. Mmh. C'était, disons, entre les années 88 et 94 à peu près. Hein. Donc, je me suis rendu compte également que dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, il y avait de plus en plus de programmes d'enseignement en anglais, de moins en moins ou pas du tout de publications françaises en français dans les sciences et les techniques. Et enfin, quasiment plus de français dans les congrès scientifiques internationaux se tenant ici même à Paris. Alors, j'ai vécu également au Japon au tout début des années 90. J'étais à Tsukuba. Et il y a une autre chose qui m'a fait tiquer là-bas, c'est que les Occidentaux étaient souvent pris pour des Américains. Et alors, on s'adressait aux étrangers occidentaux en anglais, presque à l'exclusion de toute autre langue, alors que les personnes d'origine asiatique doivent apprendre très très vite le japonais pour pouvoir se débrouiller. Il y avait une déférence et une obséquiosité malsaine vis-à-vis des Américains exclusivement. Et alors, à cette époque, j'avais lu un article publié dans une petite revue qui circulait dans la communauté étrangère de Tsukuba, qui était rédigée en anglais. Dans cet article-là, on trouvait un éloge, mais vraiment dithyrambique, de la langue anglaise. La langue anglaise était universelle, plus précise, plus concise que les autres.
Mmh. Qui a failli devenir langue officielle au Japon, d'ailleurs.
Effectivement, oui.
Après la guerre.
Non, mais il y avait eu également une tentative au 19e siècle pour la rendre officielle, et puis finalement... ça n'a pas marché. Non, ce qui a eu lieu après la guerre, c'est une tentative de réforme du système d'écriture qui était dont la promotion était faite par les Américains et qui a également échoué. Alors la langue anglaise donc était universelle, elle était plus concise que les autres et les autres langues étaient reléguées dans cet article à l'état d'aimable patois tout juste bon à quelques folklores locaux et surtout Surtout, ce qui m'avait surpris, c'est que, d'après l'auteur de l'article, elle avait acquis ce statut à la fois par son mérite et par le hasard des circonstances. Et à l'époque, j'avais été complètement incapable de réagir donc à cet article et aux fausses vérités qui étaient affirmées. Alors, comme dans tout, pour développer un argumentaire, eh ben il faut lire et lire beaucoup. Donc, je me suis mis à lire des tas d'ouvrages. Je me suis mis à me renseigner. Je me suis branché un petit peu plus tard sur des forums électroniques qui traitaient de langue, de sociolinguistique et de langue française. En 95, me sentant suffisamment solide, en fait, j'ai participé à un concours organisé à l'époque par l'ACCT, l'Agence de coopération culturelle et technique, dans le cadre du concours international de la francophonie Charles Lélou maintenant est décédé. Il est décédé, je crois, en 2002. Mais enfin, là, c'était lui qui avait organisé ce concours. Et à ma grande surprise, j'ai reçu le premier prix pour un essai d'une centaine de pages. Il s'agissait de proposer une série de réformes pour améliorer le fonctionnement de la francophonie institutionnelle. Un an plus tard, j'ai publié mon premier livre, qui m'a valu un deuxième prix, cette fois-ci administré par les Québécois. Après, en 98, un essai sur le français comme langue scientifique et technique a reçu un autre prix de l'Académie de Marseille. Donc, le fait que j'ai reçu ces prix à la queue leu-leu m'a encouragé à continuer.
Bien sûr.
Je n'aurais vraisemblablement pas continuer à écrire sur ce sujet si je n'avais pas été vraiment encouragé dans ma démarche.
Le fait qu'il y ait une suprématie aujourd'hui de l'anglais dans les affaires, dans notre environnement quotidien, ça ne semble plus étonner personne, ce qui est peut-être grave d'ailleurs en soi, mais c'est devenu un état de fait.
Oui, alors...
Ça vous semblait découvrir une réalité qui est quand même installée alors, depuis un certain temps.
Il ne s'agit pas actuellement d'utiliser l'anglais comme langue étrangère. Je veux dire, récemment, vous êtes peut-être au courant du fait que les employés d'Air France ont signé en justice la compagnie Air France pour obtenir le droit et maintenir le droit de travailler en français. Alors, il ne s'agissait bien évidemment pas du personnel navigant, des hôtesses de l'air, du personnel qui a une interface avec la clientèle. Il s'agissait de tous les autres qui n'ont aucune interface avec la clientèle et qui souhaitaient maintenir l'usage de leur langue
France même. Chez Alcatel aussi, il y a eu des cas du même ordre.
Oui, effectivement, il y a eu plusieurs cas comme cela, en fait, et c'est les employés qui ont gagné en première instance et en appel. Alors, ce qu'il faut savoir actuellement, c'est qu'en France même, la tolérance ne consiste plus à accepter que lors d'un congrès scientifique se déroulant à Paris, par exemple, certaines interventions se fassent en anglais, mais de trouver normal que le français soit totalement exclu, banni de toutes les présentations et débats. Alors, il faut se rendre compte que dans notre pays, les revendications syndicales maintenant incluent désormais le droit à travailler en français, que des réunions de conseil d'administration se fassent entièrement en anglais, alors que tous les participants sont français ou francophones, que des instructions de travail soient données en anglais et que de nombreux techniciens utilisent des manuels techniques en anglais. On a vu ce que ça a donné dans le cas des irradiés d'Épinal, où il y a eu 4000, je crois, à peu près 4900 personnes qui ont reçu des surdoses de radiation.
Parce que l'infirmière ne savait pas lire.
Parce que les consignes indiquées dans les manuels techniques avaient été mal interprétées. Il faut savoir que la formule des produits cosmétiques que nous utilisons est désormais rédigée exclusivement en anglais.
Normalement, la loi Toubon prévoit que le français soit maintenu dès lors qu'il y a un enjeu de santé publique. C'est-à-dire que les notices de médicaments en particulier...
Les notices de médicaments sont effectivement toujours en français. Dans le cas des produits cosmétiques,
pour tout le reste,
des produits
pour toute
d'hygiène,
la publicité,
etc.
On peut s'exprimer en anglais pour toute la publicité.
C'est ça.
Tout dépend de quoi il s'agit précisément, mais si c'est en anglais, c'est que ça ne relève pas d'une question de santé publique.
Bon, enfin, ça c'est tout à fait discutable, mais on assiste également à une forte résurgence des unités anglaises, comble de l'absurdité, puisque dans certains secteurs, on nous parle de pouces et de pieds, alors je parle des écrans de télévision.
De quoi
De pouces et de pieds.
On parle des pouces et des pieds, mais on garde la main sur le sujet.
On garde la main sur le sujet, Charles-Xavier Durand, justement. On se retrouve juste après 8 heures. On va continuer sur cette réflexion, la colonisation des esprits, qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je voulais juste avant que nous nous retrouvions faire peut-être une petite incursion du côté de la presse et de vos quotidiens ce matin. Alors, je ne sais pas si on parle en pouce et en pied, mais en tout cas, on ne voit que des photos dramatiques ce matin à la une de vos quotidiens. Un pays que vous connaissez bien, dont on parlera peut-être un petit peu d'ailleurs tout à l'heure, Charles-Xavier Durand, c'est le Japon. Le drame japonais menace l'avenir du nucléaire, c'est la une du Figaro. Ce matin, le débat qui anime de nombreux pays, l'Allemagne qui décrète un moratoire avant d'arrêter sa position. La Suisse qui suspend ses projets, c'est la une du Figaro ce matin. La Terre des Morts, c'est également une photo de désolation que l'on peut partager avec vous ce matin, Charles-Xavier Durand. La Terre des Morts, c'est cette photo à la une de Libé, donc reportage dans le nord-est du Japon, dévasté à Fukushima, la menace nucléaire ne fléchit pas, nous dit Libé. Tout cela, c'était également à lire ce matin dans vos quotidiens. L'incertitude nucléaire, les accidents qui affectent la centrale de Fukushima, touchée par le récent séisme du Japon, provoquent l'inquiétude à travers le monde. C'est la une de La Croix, et tout en français, s'il vous plaît. Japon, réaction en chaîne, c'est le jeu de mots que nous fait La Tribune à la une de ce matin du quotidien économique. Et puis, on terminera par Le Parisien avec le spectre d'un nouveau Tchernobyl. C'est la une de vos quotidiens ce matin, c'est Le Parisien à lire et puis à écouter. Charles-Xavier Durand qui est avec nous jusqu'à 8h30 ce matin, sociologue des langues, spéciale semaine langue française.
C'est aujourd'hui la fête de Sainte-Louise de Marillac. Elle vécut au XVIIe siècle et elle vécut à Paris. Elle était mariée et après la mort de son mari, elle décida de rejoindre Monsieur Vincent, Saint-Vincent de Paul. Et elle fonda les Sœurs de Saint-Vincent de Paul, ces fameuses sœurs si populaires et si aimées. Et nous savons qu'elle n'a eu de cesse que d'aller auprès des plus pauvres, auprès des plus démunis, auprès des enfants abandonnés, des orphelins. Sainte Louise de Marillac nous rappelle pendant notre carême que nous devons tout faire pour être auprès de ceux qui sont abandonnés, auprès des plus pauvres. Nous devons avoir une charité active auprès de nos frères. Merci Sainte Louise de Marillac de nous rappeler cette réalité pour ce temps de carême.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc, priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes comme nous les avons remises nous-mêmes à ceux qui nous devaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, à vous non plus, votre Père ne pardonnera pas vos fautes.
La lecture et le commentaire de l'évangile de ce jour sont assurés par le Père Denis Jachier, curé de la paroisse Saint-Séverin à Paris.
Lorsque Jésus enseigne à ses disciples à prier, il ne les assomme pas de formules à marmonner, de mantras à ressasser. Il leur enseigne une attitude, une disposition du cœur en prière, l'attitude de fils devant leur Père. Les païens prient des dieux qui peuvent leur faire du bien ou du mal, qui peuvent s'ouvrir ou se fermer à leurs demandes, qui ne connaissent pas vraiment le cœur de l'homme. Leurs prières doivent rendre la divinité favorable à leur cause, faire pression pour être exaucée, répéter avec insistance, préciser beaucoup. La prière des fils, c'est tout le contraire. Elle s'adresse à un père qui ne veut que du bien à ses enfants, qui veut les exaucer, et sait mieux qu'eux encore leurs besoins profonds. La prière des fils fait pleinement confiance au père, et sans chercher à exercer de pression sur lui, elle demande, en sachant qu'il donnera le meilleur. La prière des fils est confiante. Elle n'exige pas, ne rabâche pas, ne se crispe pas sur ce qu'elle demande. D'ailleurs, les trois premières demandes du Notre Père disent bien cette gratuité. On commence par prier Dieu pour Dieu, à lui demander que sa cause soit servie, que son règne s'étende, qu'il soit honoré, obéi dans le monde, comme il l'est déjà dans le sien. Prier en fils, c'est d'abord entrer dans la volonté du Père sur le monde et se détacher de sa demande particulière. Prier en fils, c'est ensuite se demander à son Père en sachant qu'il pénètre dans les profondeurs de notre être et sait parfaitement ce dont nous avons besoin. Prier en Fils, c'est savoir que Dieu habite notre prière, dispose notre cœur à ce qui est bon pour nous. Cette prière libère, élève et transforme le cœur du disciple. Elle l'oriente vers l'amour du Père pour qu'il devienne davantage fils dans le Fils unique.
Jusqu'à 8h30, Louis Dauphren.
Et avec Charles-Xavier Durand comme grand témoin ce matin, écrivain sociologue des langues qui a publié Une colonie ordinaire au XXIe siècle aux éditions EME. Charles-Xavier Durand avec nous jusqu'à 8h30, c'est la semaine de la langue française, on en parle ce matin. Les infos, elles vous sont présentées à 8h par Julien Chabanne.
On commence bien sûr avec le Japon où la menace nucléaire s'accentue. Un niveau de radioactivité supérieur à la normale a été détecté ce matin à Tokyo, mais sans risque pour la santé. En revanche, il y a bien un danger sanitaire aux alentours de la centrale de Fukushima au nord de la capitale. Il y a eu une troisième explosion hier soir et un feu s'est déclaré au réacteur numéro 4. Le niveau des radiations a considérablement augmenté selon les autorités. Le Premier ministre japonais Naoto Kan appelle les personnes qui habitent dans un rayon de 30 km autour du site à rester calfeutré chez elle. Le bilan officiel du séisme et du tsunami de vendredi dernier s'élève ce matin à plus de 2400 morts, 3000 disparus, mais certains là-bas parlent déjà de 10 000 victimes. Autre conséquence de cette catastrophe, la bourse de Tokyo s'est écroulée cette nuit en baisse de plus de 10% à la clôture. La Banque du Japon, elle fait tout pour soutenir l'économie de l'archipel. Elle a injecté 70 milliards d'euros supplémentaires cette nuit. Et pour être complet, notez que 17 Français sont portés disparus dans le nord-est de l'archipel et les 110 secouristes dépêchés par Paris sont arrivés hier au Japon. Et cette catastrophe relance en Europe le débat sur le nucléaire. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a annoncé un moratoire de 3 mois sur l'allongement de la durée de vie des réacteurs atomiques. En France, les écologistes réclament, eux, un référendum sur la question. Pas question de sortir du nucléaire pour Nicolas Sarkozy. En Libye, les forces fidèles à Muammar Kadhafi progressent vers l'est. Un assaut se prépare sur la ville clé d'Adjabiya, porte d'entrée du fief de l'insurrection Benghazi, qui se trouve à seulement 160 km de là. À l'ouest, les rebelles ont perdu le contrôle de Zouara, mais tiennent toujours Misrata. À Paris, les ministres des Affaires étrangères du G8 n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les moyens d'agir. La mise en place d'une zone d'exclusion aérienne qui mettrait fin au bombardement est bloquée à l'ONU par la Chine et la Russie. Carlos Ghosn présente ses excuses sur TF1 hier soir. Le patron de Renault a blanchi les 3 cadres dirigeants licenciés pour un soi-disant espionnage industriel. Il leur a promis réparation. Toute cette affaire ne serait en fait qu'une escroquerie menée par un responsable de la sécurité du constructeur automobile. Carlos Ghosn qui a exclu de démissionner, tout comme le départ de son numéro 2. Mais la direction, dit-il, ne touchera pas ses bonus de 2011. Deux des 3 cadres licenciés se sont dit prêts à rencontrer leur ancien patron. Il manifestait depuis plus d'une semaine devant le siège de la télévision d'État au Caire. Des milliers de Coptes ont suspendu hier leur sit-in. Ils protestaient contre l'incendie de l'église Al-Shaidin de Sol au sud de la capitale. L'armée égyptienne a fait savoir qu'elle avait commencé à reconstruire l'édifice à ses frais. Marseille joue son premier billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis 1993. Ce sera ce soir sur la pelouse d'Old Trafford face à Manchester United.
Vous êtes maman et avez besoin de souffler, de prendre soin de vous poser, car votre enfant est malade ou handicapé. Venez puiser de l'énergie avec d'autres mamans concernées par le handicap ou la maladie, en participant à la journée que l'OCH organise à Paris le jeudi 12 mai 2011. Enseignement et inscription 01 53 69 44 30 ou par mail maman@och.asso.fr.
Première communion, profession de foi, confirmation, à la procure, vous trouverez un choix unique de cadeaux à la hauteur de l'événement. Livres, disques, DVD, médailles, icônes. La librairie La Procure, 3 rue de Mézières, Paris 6e, métro Saint-Sulpice. Du lundi au samedi, de 9h30 à 19h30. Et pour vous aider dans vos choix, un espace spécial Fête de la foi a été ouvert sur le site laprocure.com.
Retrouvez bien-être et santé. Soignez rhumatisme et arthrose. Avec la Résidence des Thermes, faites le plein d'énergie et de vitalité grâce à des soins 100% naturels. Hydromassage, application de boue, massage sous pulvérisation d'eau thermale. La Résidence des Thermes, établissement 3 étoiles avec son centre de soins intégré, vous accueille dans un environnement chaleureux et confortable.
Renseignez-vous au 0800 40 00 40.
Appel gratuit depuis un fixe.
La Résidence des Thermes,
le bien-être naturel.
Vous aimez les monastères ? Depuis 40 ans, la Fondation des Monastères les soutient financièrement. Les besoins sont immenses. Mise aux normes des bâtiments, rénovation du patrimoine, aménagement d'infirmerie par exemple. Poursuivez cette œuvre. Vos dons sont déductibles de l'impôt sur le revenu et de l'ISF. Plus d'informations au 01 45 31 02 02 ou sur le site www.fondationdesmonastères.org. Merci de votre soutien.
Le grand témoin, Louis Dauphren.
Et le grand témoin ce matin, c'est Charles-Xavier Durand, qui est écrivain, sociologue des langues. On l'a rappelé, vous avez une formation scientifique. Au départ, vous êtes ingénieur chimiste diplômé en France, mais également docteur en génie des systèmes d'une université canadienne. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages concernant la guerre contre l'intelligence et sur les langues en particulier, la politique des langues. Et ce matin, on parle de la colonisation des esprits à travers votre ouvrage qui est intitulé « Une colonie ordinaire du XXIe siècle ». Le colon, c'était en quelque sorte les États-Unis, le monde anglo-saxon, que les Français cédait de toutes parts face à la pression exercée par l'anglais, peut-être parce que nous sommes assez peu attachés à l'enjeu que représente la dimension linguistique. Est-ce qu'on peut être colonisé, Charles-Xavier Durand, je vous pose la question directement, est-ce qu'on peut être colonisé par un allié, parce qu'en soi l'Amérique est notre allié, c'est le monde occidental aussi, non ?
Écoutez, il s'agit pour les États-Unis et le monde anglo-saxon en général de modifier, d'occuper les esprits de façon à modifier les pensées et le comportement des gens. Il s'agit de créer une structure, un empire, mais un empire, ça n'est pas l'occupation d'un territoire nécessairement par des forces armées, quoique ça se passe actuellement dans le monde. Vous voyez ce qui se passe en Irak et en Afghanistan, où il y a véritablement une présence militaire. Il s'agit de créer et de maintenir une structure de domination qui permette de bénéficier directement et indirectement en termes financiers, en termes de prestige, etc. Donc, ce projet
d'hégémonie... Pour vous, la France est une préfecture de l'Empire.
C'est tout à fait une préfecture de l'Empire. Disons, on peut y mettre globalement, directement, tous les pays de l'OTAN et quelques autres pays également. Maintenant, on assiste effectivement à de plus en plus de résistance. Ces techniques commencent à être connues et effectivement, il y a, je pense à l'heure actuelle, vous voyez ce qui se passe en Amérique latine, dans certains pays d'Asie, la résistance commence à sérieusement s'organiser et Internet a peut-être aidé pas mal dans ce sens en permettant de faire circuler des informations qui n'étaient pas relayées par les grands médias.
Mais votre modèle, ce n'est pas Hugo Chavez quand même, Charles-Xavier Durand.
Non, certainement pas. Mais le projet d'hégémonie planétaire mis en œuvre par les États-Unis dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, je veux dire, est quelque chose qui est tout à fait public. Je veux dire, là encore, c'est écrit noir sur blanc, Project for a New American Century. C'est une publication qui est disponible, je veux dire, qu'il suffit de lire. Maintenant, pour ceux qui ont des doutes, je vais citer encore d'autres auteurs. Par exemple, vous avez le mythe de la bonne guerre qui a été écrit par le Belge Jacques Powels qui vit au Canada et qui décrit très bien les raisons pour lesquelles les États-Unis sont rentrés en guerre, sont intervenus dans la Seconde Guerre mondiale pour justement récolter après les fruits de leur intervention. Ce projet existait, si on consulte les archives, si on lit la littérature pertinente, ce projet existait dès la fin de la Première Guerre mondiale, mais seule la Seconde Guerre mondiale a permis aux États-Unis de le mettre en œuvre. Donc là encore, il faut s'abreuver aux sources d'informations anglo-saxonnes pour avoir des détails là-dessus.
Un mot, parce qu'on parle de colonisation. La Gaule a bien été colonisée par l'Empire romain.
Effectivement, ils ne sont jamais repartis. Dans notre cas, qu'avons-nous à y gagner ? Parlons un petit peu du plan purement linguistique. Vous avez actuellement, mais de manière totalement artificielle, une substitution massive du vocabulaire français par du franglais ou des mots anglais non traduits. Donc, je le répète, ces mots sont introduits de manière totalement artificielle. Ça n'est pas une question de mode. C'est introduit de manière totalement artificielle par les médias et ils se répandent actuellement dans l'usage public. Vous entendez actuellement des expressions comme « ça fait sens ». C'est basique. Basique, ça a un sens précis pour un chimiste. C'est soit acide, soit basique. On a un terme en français. Enfin, ce qui est censé être basique, c'est quelque chose de base. C'est différent. Le chat sur Internet, le talk du Figaro, ce que j'appelle le talk du Figaro.
Ce sont bien les effets de mode, Charles-Xavier Durand,
c'est que vous avez un détricotage de la langue française et maintenant ça touche aux structures grammaticales. Mais enfin, pour simplement dans le champ sémantique, prenons un exemple du mot design qui est très à la mode, mais qui a un champ sémantique beaucoup plus large et par conséquent beaucoup plus imprécis que ses homologues français, qui sont, suivant les cas, dessin, EIN à la fin, intention, projet, visée, esthétique, conception, élaboration, création, construction, étude, plan, projection, préparation, etc. Donc quel est l'intérêt de remplacer des mots français qui ont un sens tout à fait précis par un mot qui a un sens beaucoup plus général, suivant le contexte. On a une langue précise, on a des termes précis, pourquoi ne pas les utiliser ? Donc, le problème, c'est que les gens qui utilisent ces termes, donc, tiennent un discours qui est naturellement beaucoup plus imprécis, beaucoup plus vague, que s'ils utilisaient les termes français qui s'appliquent. Donc, chacun met dans cette salade un petit peu ce qu'il veut.
Vous préférez mercatique à marketing ?
Non, je pense la commercialisation, tout simplement, me donne, le sens dont j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de marketing même. Je n'ai pas besoin de mercatique. Le marketing, c'est tout simplement les techniques de commercialisation. C'est un petit peu plus long à dire, mais ça dit bien ce que ça veut dire.
Fast-food est quand même plus évocateur que restauration rapide.
Vous savez, en informatique, il y a exactement le phénomène. On a introduit des centaines de nouveaux termes. Je parle en anglais. Et qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 50 dans les ordinateurs ? Vous avez des vitesses d'accès mémoire bien plus importantes. Vous avez des capacités mémoire bien plus importantes, des vitesses de traitement de base du processeur qui sont nettement plus élevées. Et tout ça nous a permis de créer des applications applications nouvelles, mais à la base, l'ordinateur des années 50 est exactement le même que celui d'aujourd'hui. C'est un appareil qui permet d'exécuter de manière séquentielle des instructions. Il s'agit juste d'une évolution technique.
Charles-Xavier Durand, quand même, du point de vue linguistique, l'anglais a une force, c'est que il arrive à isoler le concept dans un seul mot, là où le français est obligé de mettre une phrase ou des mots plus longs.
Je suis spécialisé en base de données. J'ai enseigné à la fois en anglais et en français. Quand je travaillais à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard, dans mon cours, il n'y avait pas un seul terme anglais. À l'exception d'un seul, c'était bit, c'est-à-dire c'est binary digit, ça veut dire chiffre binaire. Bit est effectivement plus court. Pour le reste, je n'ai jamais utilisé le moindre terme anglais. Ressentais pas le besoin.
De la mode, par exemple, le look. Prenez des mots.
Ce qui est bizarre, je vais vous donner un exemple. Par exemple, là-dedans...
Prenez un mot comme crash. Un avion qui se crash, c'est bien un anglais.
Un avion qui s'écrase.
Oui, bien sûr. Mais dans le crash, vous avez quasiment le son de l'événement. Et ça fait la force de l'anglais.
Vietnamien, un chat, c'est meo. C'est le génie des langues de désigner, comme elles l'entendent, les différents concepts et les différents objets qui nous entourent. Vous avez une différence. Par exemple, le mot table, vous allez avoir une... correspondance de 1 à 1 dans toutes les langues. Bon, une table, tout le monde l'utilise. Mais dès que vous passez à des concepts un petit peu plus abstraits, vous n'avez pas recouvrement à 100% de la signification d'un terme dans une langue par rapport à la signification d'un terme dans une autre langue. Donc, chaque langue découpe la réalité à sa manière. Ça oriente notre pensée d'une certaine manière. Je veux dire, des gens comme Wilhelm von Humboldt. Il a montré, Humboldt, ça a été le premier à expliquer comment la spécificité des structures grammaticales influence la spécificité de la pensée et par conséquent la créativité qui diffère dans les peuples d'une langue à l'autre. Voilà, il y a des réalisations, même du point de vue technique. Moi, je me suis amusé à décrire des réalisations, par exemple, faites par des réalisations techniques, scientifiques et techniques faites par les Britanniques, les Allemands, les Français, les Japonais.
Qui sont liés à leur mode de pensée.
Et qui sont liés exactement à leur mode de pensée.
Vous avez un exemple ?
Vous voyez les réalisations japonaises, les réalisations techniques japonaises, c'est très proche du point de vue précision, du point de vue précision d'exécution, très proche de l'art japonais. La langue japonaise est très adaptée pour représenter des impressions. Donc vous avez directement une influence de la langue en fait sur l'art japonais et vous voyez qu'il existe une relation entre l'art et les techniques japonaises. Cet exemple pourrait être plus élaboré, mais je ne me souviens pas de ce que j'ai écrit à 100% dans mes livres, mais je donne de nombreux exemples dans mes livres là-dessus.
Charles-Xavier Durand avec nous ce matin jusqu'à 8h30, une Colonie ordinaire du 21e siècle, c'est aux éditions EME. Vous êtes sociologue des langues, vous êtes écrivain, et on se retrouve dans une seconde.
L'éditorial.
Gérard Leclerc.
Et le Japon, on y reste bien sûr avec Gérard Leclerc qui évoque les questions soulevées par la question nucléaire sur l'archipel nippon.
Évoquant hier la tragédie du Japon, j'avais laissé entre parenthèses la menace d'explosion des installations nucléaires, dont pourtant tous nos médias faisaient état dans un climat angoissant et obsessionnel. Cela a continué hier toute la journée et il m'est impossible d'éviter un sujet dont je me serais bien passé, je l'avoue. L'incompétence est-elle une excuse alors que personne ne saurait être étranger, encore moins indifférent, à une cause qui relève au sens le plus fort du bien commun. Pour être tout à fait sincère, il n'est pas vrai que je m'abstienne de tout jugement sur la question nucléaire. Cela fait longtemps, et même très longtemps, que je balance entre des pôles contradictoires à propos d'un débat toujours cinglant qui a commencé sur le terrain militaire. D'un côté, j'étais rationnellement convaincu par l'argumentation du général Pierre Gallois, le plus brillant de nos théoriciens militaires, sur le bien fondé d'une force de frappe française. D'ailleurs, le général de Gaulle, balayant toutes les objections, avait employé tous ses efforts pour doter notre pays de l'arme nucléaire. Et pourtant, j'avais dans le cœur les cris d'effroi de mon maître fraternel Georges Bernanos face aux premiers essais nucléaires et je n'ai cessé de remâcher les graves avertissements que nous assénaient les plus lucides des observateurs de notre temps. Depuis l'inoubliable Gunther Anders, le prophète de l'obsolescence de l'homme, jusqu'à un Jean-Pierre Dupuis, analyste implacable de la généalogie des catastrophes modernes. Le nucléaire civil, même s'il est lié au nucléaire militaire, obéit à un ordre différent de rationalité. N'empêche qu'il laisse planer sur la planète entière une lourde menace que les meilleures précautions ne peuvent prétendre juguler. On s'en aperçoit avec le Japon, en constatant de surcroît que de graves imprudences ont été commises sur un terrain géologique bien plus vulnérable que le nôtre. Nous assistons donc à une mobilisation mondiale des mouvements écologiques et il est impossible de ne pas les entendre, même si nos industriels se défendent aussi avec des arguments sérieux. Le principe de précaution est souvent à juste titre discuté, mais sur ce terrain-là, il ne saurait être éludé.
Radio Notre-Dame, le grand témoin.
Charles-Xavier Durand, donc, avec nous, une colonie ordinaire du 21e siècle. On parle bien sûr de l'anglais, la suprématie de l'anglais. On peut s'en désoler, mais ce qu'il faut, c'est trouver peut-être aussi des moyens, des raisons, en tout cas être clairvoyant sur le sujet. Si je résume votre propos, c'est qu'il n'y a aucune raison qui explique en fait l'ultra-domination de l'anglais, si ce n'est une politique concertée qui se traduit par le fait d'occuper les imaginaires, en particulier par la culture, la langue, la télévision, tout ce que vous voudrez.
C'est un phénomène qui a été décrit par Louis-Jean Calvet dans un de ses livres, qui est lui un linguiste officiel de la République. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous devez ici impérativement étudier l'anglais, sinon vous n'avez pas les notes suffisantes en anglais, vous ne pouvez pas avoir votre diplôme d'ingénieur ici, c'est totalement exclu.
Vous nous parlez, je le rappelle, d'une colonisation, d'une colonie ordinaire du 21e siècle. Ce qui fait la force de l'anglo-américain, c'est que, mine de rien, à travers les médias, à travers toute la consommation, il se fait apprécier.
Ces médias ont été noyautés pour présenter cette vue-là. Je veux dire,
mais aujourd'hui, nos contemporains ne sécrètent pas en eux les défenses naturelles immunitaires contre l'anglais, alors qu'à l'Est, ils le faisaient, contre le russe.
Oui, effectivement, moi je suis allé il y a quelques années en Lituanie. En Lituanie, tous les gens qui avaient une quarantaine d'années parlaient parfaitement le russe. Quand vous baladez à Vilnius, vous ne voyez rien d'écrit en russe. Mmh. Effectivement, ils détestaient les Russes. Bon, mais je pense que nous, en tant que Français, en tant qu'Européens, nous devons prendre un petit peu de recul et identifier le problème, identifier l'ennemi. Peut-être pour eux, ils l'identifiaient plus facilement que nous.
Ça revient à la première question que je vous ai posée. Est-ce qu'un allié peut être un colon? Or, aujourd'hui, l'Amérique est dans notre camp. Dans l'esprit de l'opinion.
Les États-Unis ont un projet d'hégémonie planétaire qu'ils mettent en œuvre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Point barre, il n'y a plus rien à dire. Donc, évidemment, on essaye de se présenter comme amis aux populations. Ben, je veux dire, dans tous les pays où nous, Français, avons été présents, on essayait de se présenter comme la puissance bénéfique, qui faisait du bien, qui construisait des écoles, d'une manière ou d'une autre, notre présence était censée être positive. Vous remontez aux années 20, aux années 10, en Indochine française, en Algérie, les Français étaient les bienvenus et avaient le soutien, surtout, des élites locales. Après, évidemment, les choses ont changé. Mais
est-ce qu'on a des moyens d'inverser cette tendance, de faire revenir le français au cœur du jeu?
Alors, faire revenir le français au cœur du jeu, ça signifie redevenir nous-mêmes et particulièrement réexercer notre créativité. Je vois dans le domaine scientifique, même si on a fait beaucoup de progrès dans le domaine technique, vous savez, la technique actuelle fonctionne sur des principes qui ont découvert il y a 50 ou 60 ans. Je veux dire, en découverte fondamentale, il ne se passe pas grand-chose. Les ressorts de la créativité doivent, en fait, être retrouvés dans notre culture et dans notre langue. C'est ce que affirme Laurent Laforgue, médaillé Fields, qui a une opinion très, très arrêtée là-dessus, mais qu'il explique de manière tout à fait rationnelle. Bon, ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est de prendre conscience de notre situation. Là, je voulais vous parler, par exemple, du travail de François Grin. François Grin est un professeur à l'Université de Genève qui est spécialisé en économie des langues. C'est-à-dire, vous étudiez une langue, qu'est-ce que ça vous rapporte, qu'est-ce que vous y perdez? Il estime, à 15 milliards d'euros, le revenu global que la Grande-Bretagne tire dans l'enseignement de sa langue sur le continent européen. Alors là, il s'agit d'une mécanique, de simple comptabilité,
Le français.
Il n'y a pas de... Alors, si l'on tient compte, attendez, j'ai pas terminé, si l'on tient compte d'un coût horaire moyen, d'un coût de travail horaire moyen de 21,2 euros pour l'Europe occidentale, l'enseignement des langues en Europe continentale, quand il se substitue au travail, est équivalent à une perte sèche de 210 milliards d'euros, soit plus de 3 fois le coût de l'enseignement lui-même, et nous savons que l'essentiel de cet enseignement est celui de l'anglais.
Alors attendez, je n'ai pas très bien compris, est-ce que vous pouvez traduire ça?
Il y a un flux financier direct entre les pays d'Europe continentale et l'Angleterre, sur le plan de l'enseignement de la langue uniquement.
C'est-à-dire le fait que l'anglais soit enseigné va enrichir.
Va engraisser les pays anglo-saxons. Alors c'est l'effet direct. Mais je veux dire, vous avez des effets indirects après concernant le prestige et la perception qu'on a à l'extérieur des pays d'Europe continentale. Et à la Commission européenne, si on considère que globalement la communication se fait à 50% en anglais, alors que si ce n'est pas le cas, c'est de plus que 50% actuellement, alors que le poids de la Grande-Bretagne n'est que de 13%, et que le coût global de traduction et d'interprétation est de 2,76 milliards d'euros, l'usage déséquilibré de l'anglais coûte ainsi 2 milliards de trop à l'ensemble des pays membres.
Traduire du maltais en lituanien, ce n'est pas facile.
Oui, non, mais cela, je veux dire, le problème des langues doit être repensé totalement. On ne parle pas, par exemple, d'autres techniques qui ont été développées, justement, par l'équipe de François Grin, comme l'intercompréhension.
Est-ce qu'on sait combien la France perd du fait de la mauvaise utilisation de sa langue ?
Je n'ai pas ces chiffres-là.
Le manque à gagner à ne pas utiliser le français.
Le manque à gagner. Alors, François Grin a chiffré, moi je n'ai pas fait cette approche-là, François Grin a déterminé les flux financiers des pays d'Europe continentale vers la Grande-Bretagne, mais je ne suis pas en mesure de répondre à votre question.
Est-ce que ça peut être mesuré ?
Je pense que ça pourrait être mesuré.
En termes commerciaux ?
Je pense que si on veut faire le travail sérieusement, il faut faire... sur le plan indirect, je peux vous dire que la perte du prestige de la langue française qui en résulte est très dommageable en ce qui concerne ne serait-ce que les pays de la francophonie institutionnelle.
Alors remarquez peut-être qu'on fait une affaire de tout cela, mais il y a certains pays qui n'ont pas d'expansion linguistique particulière dans leur propre langue et qui sont de très grande puissance. L'Allemagne par exemple, 10% de l'industrie mondiale, c'est l'Allemagne. Bon, c'est vrai que les Allemands travaillent en anglais la plupart du temps. Mais il n'y a pas d'expansion territoriale allemande et il n'y a pas de politique linguistique hégémonique de l'allemand, excepté peut-être dans le bassin d'Europe centrale.
Attention, les Allemands sont un peu comme les Chinois, c'est-à-dire ils font beaucoup appel à leur diaspora pour faire des affaires, surtout par exemple en Europe de l'Est et dans des pays même, vous avez des communautés allemandes, au Kazakhstan par exemple. Donc les Chinois font du commerce international en s'appuyant essentiellement sur leur diaspora. Les Allemands c'est pareil. Et ça explique peut-être en partie la force commerciale de l'Allemagne.
Donc la langue demeure un pivot.
La langue demeure un pivot pour faire des affaires absolument.
Merci beaucoup Charles-Xavier Durand. Une colonie ordinaire du 21e siècle, c'est aux éditions EME. Vous êtes sociologue des langues et vous êtes écrivain. Vous avez une formation au départ d'ingénieur chimiste. Vous avez beaucoup travaillé ces questions de manipulation de l'intelligence, de captation des consciences, en particulier par le monde anglo-saxon. Merci beaucoup d'avoir tenté de nous ouvrir les yeux ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Il sera bientôt 8h27, le grand témoin de demain, ce sera Jean-François Colosimo, une voix que vous avez bien connue par le passé dans notre débat du vendredi. Jean-François Colosimo, président du Centre National du Livre, qui viendra nous parler évidemment du Salon du Livre et de sa conception de la littérature et de l'état du livre en France, parmi les sujets que nous commenterons bien sûr dans l'actualité à partir de 7h35 pour le grand témoin jusqu'à 8h30. À suivre, Radio Vatican à 8h31.